Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue, chers actionnaires, chers amis. Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle assemblée générale mixte de la société AXA. Je suis entouré de Thomas Buberl, directeur général, Jean-Martin Folz, administrateur indépendant référent et président du comité de rémunération et de gouvernance, Gérald Darlin, directeur général adjoint et directeur financier du groupe, George Stansfield, directeur général adjoint et secrétaire général du groupe, et Jacques de Peretti, membre du comité de direction et directeur général d'AXA France. Je tiens à vous remercier de votre présence. Je voudrais aussi saluer la présence au premier rang des membres du conseil d'administration que je remercie à cette occasion pour leur engagement et leur contribution active aux travaux de notre conseil. Je vous informe que des personnes non actionnaires étant présentes dans la salle, notre assemblée générale revêt le caractère d'une réunion publique et que les débats, comme l'ensemble de cette réunion, font l'objet d'une retransmission sur notre site internet axa.com. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une réunion qui se veut chaleureuse, conviviale et riche en informations autant que possible. Nous allons procéder aux formalités préalables à l'ouverture de la séance et constituer le bureau. Cette assemblée générale se réunit ce jour sur première convocation. Elle a été convoquée conformément aux dispositions légales par un avis de réunion publié le 22 février 2019 au bulletin des annonces légales obligatoires et par un avis de convocation paru à ce même bulletin le 20 mars 2019, ainsi que dans le journal d'annonces légales Les Petites Affiches du 20 mars 2019. Je viens d'être informé que l'Assemblée peut se tenir régulièrement, tant dans sa forme ordinaire que dans sa forme extraordinaire. 13 896 actionnaires sont présents ou représentés, représentant 1 420 309 337 actions et 1 788 082 374 voix, représentant respectivement 59,67% du total des actions et 63,45% des droits de vote existants. Je vous ferai connaître le quorum définitif avant le vote des résolutions, une fois que toutes les actions des actionnaires présents ou représentés auront été décomptées. Je déclare donc ouverte la présence de l'Assemblée générale et vais procéder à la constitution du bureau. J'appelle en qualité de scrutateur, et s'il veut bien accepter cette fonction, les deux actionnaires présents disposant par eux-mêmes ou comme mandataires du plus grand nombre de voix. Il s'agit de la société AXA Assurance IRD Mutuelle, représentée par M. François Martineau, administrateur de cette société, et de la société AXA Assurance Vie Mutuelle, représentée par M. Olivier Richer, administrateurs de cette société. Je les remercie de leur accord et leur propose que soit désigné en qualité de secrétaire de l'Assemblée M. Gérald Darlin. Les commissaires aux comptes qui ont été convoqués conformément à la loi par lettre recommandée sont présents. Il s'agit de M. Xavier Crépon qui représente le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et de M. Jean-Claude Poli qui représente le cabinet Mazars. Enfin, je tiens à disposition de l'Assemblée tous les documents légaux. J'ajoute que les actionnaires qui en ont fait la demande ont reçu les documents et renseignements prévus par la loi ou ont pu en prendre connaissance au siège social ou sur le site internet de la société. Nous vous réunissons aujourd'hui en Assemblée générale mixte afin que vous vous prononciez sur 11 résolutions à caractère ordinaire et 15 résolutions à caractère extraordinaire. Je demande à l'Assemblée de bien vouloir m'autoriser à ne pas lui donner lecture in extenso de l'ordre du jour de la présente séance et de prendre connaissance de l'ordre du jour simplifié qui apparaît sur l'écran situé derrière moi. Je vous demande également l'autorisation de ne pas donner lecture du rapport du Conseil d'administration qui est inclus dans le rapport annuel 2018 d'AXA, aussi appelé document de référence. Ce rapport était tenu à votre disposition au siège social de la société. Il vous a été adressé sur demande. Il est également à votre disposition à l'entrée de la salle. Ceci nous permettra de disposer de davantage de temps pour les exposés qui vont vous être présentés et surtout pour répondre à vos questions. Je vous indique que, comme pour les assemblées précédentes, il sera fait usage du vote électronique dont les modalités vous seront exposées avant le vote des résolutions.
Bonjour à tous et à toutes, chers actionnaires. Je suis très heureux d'être une nouvelle fois devant vous pour votre Assemblée générale. 2017 était l'année des choix structurants. 2018 était l'année de l'action et de la décision. Vous avez vu beaucoup de décisions qui ont été mises en œuvre, la création d'AXA XL, la cotation en bourse de nos activités vie et épargne aux États-Unis, la montée en capital à 100% dans la société AXA Tianping et certainement le déploiement des offres innovantes. 2018 était une année de transformation, mais en même temps une année des résultats, des bons résultats opérationnels. C'était 2017 où on a pris les choix structurants. Le premier choix, c'était l'organisation. Comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus simple? Comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus proche de nos clients? Et comment est-ce qu'on peut donner beaucoup plus de l'autonomie à nos entités locales qui sont les plus proches des besoins de nos clients? De l'autre côté, on s'est mis d'accord et décidé sur les axes stratégiques. Premier axe, transformer le profil de risque du groupe AXA. Deuxième décision, se focaliser sur des marchés clés. Il y en a trois. La santé, la protection, les assurances dommages en entreprise. Troisième décision, continuer et mise en route de l'innovation. 2018, c'était l'année où on a mis beaucoup en route pour vraiment bâtir un nouvel AXA. Qu'est-ce que ça veut dire bâtir un nouvel AXA? Premièrement, ça veut dire investir dans des marchés ciblés. Notre choix stratégique était comment est-ce qu'on peut s'approcher beaucoup plus de nos clients, comment est-ce qu'on est beaucoup plus en contact avec eux pour vraiment mieux considérer et remplir leurs besoins. Le premier choix était clairement autour de l'acquisition de l'entreprise XL Catlin. La combinaison entre AXA et XL nous fait le numéro un au niveau mondial dans des risques dommages en assurance. L'autre grand investissement pour renforcer nos présences sur les marchés ciblés, c'était l'investissement en Chine. Monter dans notre part de capital à 100% de la société AXA Tianping, qui nous fait le premier assureur étranger en dommages en Chine. Bâtir un nouvel AXA veut aussi dire se développer dans les innovations, dans les nouveaux services pour les clients. Parce qu'on voit aujourd'hui que le paiement de sinistres ne suffit pas. Nos clients veulent qu'on les accompagne pour vivre une meilleure vie. Accompagner, ça veut dire premièrement dans la santé. On est tous confrontés aux difficultés de soins médicaux. AXA a lancé il y a quelques ans un service de télémédecine. Nous sommes aujourd'hui le plus grand en télémédecine en France, basé sur deux activités, nos activités AXA Assistance et nos activités CARE dans le start-up CARE qu'on a monté. Le deuxième axe, c'est la mobilité. On voit qu'il y a un fort besoin aujourd'hui d'assurer les trajets. Jusqu'ici, on a déjà assuré plus qu'un milliard de trajets. Et troisièmement, le partenariat de banque assurance moderne avec ING au niveau européen est certainement un autre pilier de l'innovation où on réinvente ensemble avec ING la combinaison entre banque et assurance. Tout ça a été possible parce qu'on a créé une entité d'innovation qui s'appelle AXA Next à part, qui a développé ces innovations et nous sommes maintenant au moment où il faut les lancer dans toutes les entités en France et ailleurs. Guillaume Bory, le directeur général de AXA Next, va vous parler dans un instant plus en détail sur qu'est-ce qu'on a fait dans les innovations et qu'est-ce qu'on planifie pour la suite. Bâtir un nouvel AXA en 2018, c'était aussi la question comment on peut désensibiliser AXA aux risques financiers. On a pris 3 décisions importantes pour réduire notre sensibilité aux risques financiers. Et ça a commencé vraiment autour de la crise financière de 2008. On a pris la décision de réduire notre exposition aux risques financiers et ça s'est accéléré dans les derniers 2 ans avec 3 décisions fondamentales. Première, la mise en bourse de nos activités américaines en vie et épargne. Ça s'est fait en mai dernier et vous avez vu récemment qu'on a réduit notre participation en dessous de 50%. Une deuxième décision importante, c'était la restructuration et la transformation de nos activités vie collective en Suisse, d'une activité à taux garanti à une activité qui ressemble plutôt à une activité de gestion d'actifs. Une troisième grande décision, c'était la mise en vente de nos activités de variable annuities européens dans la société AXA Life Europe en Irlande. 2018 était aussi une année de retour à la croissance tirée par les 3 segments cibles, la santé, la protection et les assurances en dommages entreprises. On a fait une croissance de 4% qui nous amène à un chiffre d'affaires de 103 milliards. Cette croissance était vraiment tirée par une croissance de 5% en dommages entreprises, de 7% en santé et de 3% en protection. Clairement, le métier de l'assurance dommages en entreprise a cru le plus fort et après l'acquisition d'XL, nous avons aujourd'hui 25% de notre chiffre d'affaires dans ce segment. Pour nous, c'est un grand pilier et levier de croissance pour le futur. Cette intégration XL est certainement une intégration complexe. C'est pourquoi on passe beaucoup de temps là-dessus, on passe beaucoup d'efforts, parce que créer ce numéro 1 mondial en dommages en assurance est quelque chose de très important pour nous. Je dois vous dire, je suis très confiant aujourd'hui que cette intégration se passe très bien. Après la clôture de la transaction en septembre de l'année dernière, on a pris une première décision d'aligner nos programmes de réassurance respectifs vers la philosophie AXA et vers l'appétit de risque AXA. Aujourd'hui, on a un programme de réassurance complètement réaligné. On a aussi mis en place notre organisation commerciale. Parce que cette combinaison entre AXA et XL est quelque chose d'enrichant pour tous les deux. On peut maintenant faire des affaires que personne des deux a pu faire avant. Et ça se voit déjà dans nombreux pays qu'il y a une forte collaboration pour vraiment avoir une croissance mutuelle qui n'était pas possible avant. Certainement en Europe, on a le défi d'intégrer les 2 organisations XL et AXA Corporate Solutions. Et vous avez peut-être vu que nous avons présenté un projet d'organisation en Europe avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes tout à fait en ligne avec les ambitions, avec les objectifs qu'on a communiqués l'année dernière. Et encore une fois, je suis très confiant que cette intégration se passe bien. XL et AXA XL nous donnent aussi une dynamique commerciale qu'on n'a pas eue avant. Je vous avais montré avant que la croissance dans le secteur des assurances en entreprise est très favorable parce qu'on couvre beaucoup des nouveaux besoins. Je vous rappelle du sujet cyber, du sujet du climat et d'autres qui créent des nouveaux besoins. Dans la partie 2018 d'AXA XL, on a vu une croissance de chiffre d'affaires de 10%, tirée d'un côté par une vraie croissance des nouveaux besoins, mais de l'autre côté aussi grâce à une dynamique d'une hausse tarifaire tirant les marchés. Si je regarde le renouvellement 2019, je suis très confiant aussi parce que les taux de renouvellement ont été très positifs. Et AXA XL nous donne aussi un nouveau cap en termes de qualité de service. C'était en 2018 que AXA XL était nommé pour la troisième fois conséquente le numéro un assureur mondial avec le meilleur service et satisfaction de clients dans les grands risques, le fameux J.D. Power Award. Et on est très fiers de ça, et certainement notre ambition est de garder cette position. Si on regarde tous ces mouvements, on voit aujourd'hui un groupe AXA qui est beaucoup moins exposé aux risques financiers vis-à-vis d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, 80% de nos activités ont été des activités vie et épargne. Aujourd'hui, et certainement après la cession totale de nos activités américaines en vie et épargne, on se retrouve avec 80% des métiers qui sont liés aux risques techniques. Risques techniques dans le sens des segments préférés, santé, prévoyance et les risques yard. Ça veut dire les risques particuliers et les risques entreprises. Ça nous fait beaucoup plus solides parce que ces risques techniques sont décorrélés des marchés financiers. C'est très difficile de se couvrir et de se diversifier dans un monde des marchés capitaux qui sont très très liés. Et c'est pourquoi se focaliser sur les risques techniques, ça veut dire augmenter notre diversification, mais ça veut dire aussi de se décorréler des marchés financiers. C'est clair qu'on voit des volatilités aux marchés financiers et en même temps aux risques techniques. Je vous rappelle des catastrophes naturelles. Mais si vous regardez l'effet sur notre bilan, on peut clairement dire que les risques techniques et la volatilité des risques techniques sont beaucoup moins graves pour notre bilan que les risques financiers qui sont interconnectés. Et en plus, il y a certainement un grand marché des capitaux alternatifs où on peut se couvrir contre ces risques techniques si on ne veut pas les garder. Si vous regardez le cours de bourse d'un an, il y a certainement de mouvements dans ce cours de bourse. On voit quasiment 3 phases. La première phase, qui était la phase après l'annonce de l'acquisition XL. Là, on voit que l'action AXA a sous-performé le CAC 40 parce que l'effet surprise et l'incertitude sur l'intégration et sur les transactions que j'ai mentionnées avant, la mise en bourse d'AXA Equitable, la transformation de notre portefeuille Vie en Suisse, etc., n'étaient pas encore claires. Au mois de septembre, après la clôture d'XL, on va certainement que ça change. Et dans une troisième phase, qui est beaucoup plus le début de cette année, on voit que l'action AXA est plus forte que le CAC 40, qui fait, dans une période d'un an, que nous sommes légèrement en dessus du CAC. Être assureur veut aussi dire être au milieu de la société et aider la société pour vivre une meilleure vie. C'était dès le début d'AXA, déjà sous régime de Claude Bébéard, un atout très fort. Et vous avez vu, en 2018, on a progressé là-dessus aussi. On a pris des décisions dans trois endroits. Le premier endroit, c'était clairement la lutte contre le changement climatique. Vous avez vu nos annonces de désinvestissement dans le territoire de charbon. Le deuxième grand sujet, c'était la santé, y compris la mise en route des services innovants. J'ai mentionné la télémédecine avant, le partenariat avec les Hauts-de-France, etc. Et un troisième, c'est clairement nos actions pour améliorer l'inclusion économique et la cohésion sociale. Chaque année, on mesure aussi notre performance. On prend des indices qui sont reconnus au niveau mondial, le Dow Jones Sustainability Index, et je suis très fier de vous dire que pour la troisième année consécutive, nous sommes dans les meilleurs 5%. Je ne vais pas en dire plus parce que Céline Soubranne, qui s'occupe de nos affaires entreprises responsables, va vous parler après beaucoup plus en détail. Un deuxième sujet qu'on a poussé en 2018 était notre marque. AXA était en 2018, pour la dixième fois, la marque numéro un mondiale en assurance. Mais on a quand même dit, il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse et on veut investir. Vous avez vu tout au début de cette Assemblée générale, le nouveau film, la nouvelle campagne qui va être lancée en France bientôt. Cette campagne est basée sur le concept confiance en soi-même, know you can. C'est clairement un message vis-à-vis nos clients, parce qu'il y a beaucoup de l'incertitude dans la vie, mais si on croit en soi-même, on peut y arriver. Et c'est notamment clairement aussi un message aux collaborateurs d'AXA que c'est possible de transformer et que c'est possible de réussir dans un marché qui n'est pas facile. Un deuxième investissement sur la marque est notre partenariat avec Liverpool Football Club. Là, on voit que Liverpool Football Club et AXA sont très alignés dans leur vision de vie et certainement pour la reconnaissance de notre marque en Asie, ce partenariat est extrêmement important parce qu'il y a des millions de fans en Asie qui le suivent. 2018 était l'année de mise en œuvre, de mise en route des choix stratégiques. On va continuer en 2019 exactement dans cette direction. L'implémentation des grandes décisions est absolument au cœur et très au cœur est clairement l'intégration d'XL. Aujourd'hui, nous sommes sur la bonne route de notre ambition 2020 et je suis très confiant qu'on va y arriver et qu'on va remplir les targets, les objectifs qu'on a donnés en 2016. Ça veut dire aussi qu'on commence et on continue à beaucoup plus développer et déployer les services innovants. Pour nous, c'est un sujet stratégique absolument fondamental et je suis très heureux et j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Guillaume Bory qui s'occupe de l'innovation, qui est directeur général AXA Next et qui va vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans l'innovation et qu'est-ce que ça veut dire aussi comme bénéfice pour nos clients. Je vous remercie, chers actionnaires, pour votre confiance et pour votre attention. Merci.
Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour effectivement parler avec vous des efforts d'innovation du groupe. Qu'est-ce que l'innovation signifie pour AXA et comment nos efforts d'innovation vont être accélérés à travers les priorités stratégiques d'AXA Next, qui est l'entité que nous avons créée au début de l'année 2019 afin d'accélérer nos efforts en matière de création de nouveaux services et de développement de nouveaux modèles d'affaires pour mieux accompagner nos clients. À l'origine de la création d'AXA Next, il y a la conviction stratégique du groupe que nous devons transformer le modèle d'AXA d'un payeur de sinistres à un partenaire des clients. Que pour rester pertinent dans l'accompagnement des clients face à leurs besoins de protection, nous avons besoin de développer de nouveaux services qui vont créer une interaction beaucoup plus fréquente avec les clients, qui vont nous permettre de vous accompagner de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus régulière, en complément du produit d'assurance. La mission de protection, qui est celle du groupe AXA, elle se poursuivra à travers l'assurance et elle sera étendue à travers nos efforts de développement de nouveaux services. C'est le cœur de l'objectif d'AXA Next, comment rendre plus simple la vie de nos clients. Et la meilleure manière d'illustrer ça, c'est de parler des quatre principales priorités que nous nous sommes fixées pour étendre le rôle d'AXA et diversifier le modèle d'activité du groupe afin de mieux accompagner nos clients. Pour cela, dans quatre écosystèmes, nous allons progressivement proposer à nos clients de nouveaux services, de nouvelles activités qui ont le potentiel de les accompagner au jour le jour face à leurs besoins de protection. Le premier de ces écosystèmes, c'est la santé. L'ensemble des besoins de santé dans le monde, en 2020, représenteront 8 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Et c'est un marché dans lequel l'assurance aujourd'hui ne traite que 15% des besoins. Donc si nous voulons accompagner au mieux nos clients, l'enjeu fondamental pour nous, c'est comment être beaucoup plus complet dans notre proposition de valeur et répondre à des besoins très concrets. Et je voudrais m'attarder une minute sur la santé en particulier, en prenant un fait que tous les pays dans le monde sont en train de connaître, marché développé comme marché émergent, c'est la prévalence des maladies chroniques. Aujourd'hui, 45% de la population mondiale va connaître au cours de sa vie une maladie chronique. Nous sommes à peu près un millier cet après-midi, ça veut dire que 450 d'entre nous, à un moment donné dans sa vie, vivra dans une condition de maladie chronique. Et dans ces moments-là, la question, au-delà d'être correctement couvert sur le plan assurantiel, c'est aussi comment accéder au bon docteur au bon moment, avoir accès aux meilleurs traitements, être certain qu'on est suivi régulièrement, pouvoir progresser dans la prise en charge de cette maladie chronique. L'ensemble de ces besoins, ce sont des besoins quasi quotidiens pour un malade chronique. Par exemple, une personne atteinte de diabète. Et nous pouvons, grâce à la technologie, proposer des véritables services d'accompagnement à travers la télémédecine, à travers les efforts de coordination des parcours de soins, à travers l'ensemble des données dont nous disposons pour identifier les meilleurs établissements pour la prise en charge des patients. Sur tous ces sujets, nous pouvons proposer un accompagnement beaucoup plus personnalisé que la seule couverture d'assurance que nous continuerons également de proposer. Le même effort de diversification, nous allons l'accomplir dans l'écosystème des plateformes. Toutes les plateformes numériques, Thomas Buber y faisait référence dans son introduction. Dans ces plateformes numériques, on interagit au quotidien, on achète des produits, des services, et associé à ces achats, il y a un besoin de protection. Problème de sécurité de son identité numérique, problème de sécurité de la livraison du produit que nous avons acheté, problème de rapatriement quand on a acheté un voyage. Sur l'ensemble de ces problématiques, nous pouvons proposer des solutions de protection, et l'enjeu, c'est de les placer au bon moment, au bon endroit et à la demande. Dans cet écosystème des plateformes numériques, qui est extrêmement large, 3 500 milliards d'euros en 2020, nous pouvons élargir notre rôle et diversifier notre activité. Même effort dans l'écosystème de la mobilité. Comment accompagner les nouvelles formes de mobilité? L'apparition de plus en plus de véhicules qui sont capables de traiter un certain nombre de tâches de conduite automatiquement. L'apparition de nouvelles formes de voyage, plateformes d'échange, de collaboration, de covoiturage, j'y reviendrai. Et enfin, en plein alignement avec notre priorité donnée à l'accompagnement des entreprises, comment mieux accompagner les entrepreneurs, les PME, qui ont des besoins de protection très forts, face auxquels la solution d'assurance n'est pas une réponse suffisante. Elle est une réponse nécessaire, mais pas une réponse suffisante. Un exemple, c'est les risques de cyberattaque. Aujourd'hui, pour une PME, le premier enjeu, c'est de savoir s'il y a des faiblesses dans son système informatique. En cas d'attaque, comment rapidement ce système peut redémarrer. Sur l'ensemble de ces services, nous développons également des nouvelles solutions. Pour développer l'ensemble de ces nouveaux services et accélérer la diversification du modèle d'affaires d'AXA, nous avons rassemblé au sein d'AXA Next un certain nombre d'unités qui, depuis 2015, se sont consacrées à l'investissement dans des start-up, à l'incubation de nouveaux modèles d'affaires, à la création de partenariats stratégiques au bénéfice de l'ensemble des clients du groupe. Depuis 2015, le groupe AXA a consacré plus d'1 milliard d'euros d'investissement afin de mettre sur le marché de nouveaux services et de nouvelles propositions. Et chacune de ces unités a joué un rôle dans le développement de ces nouvelles propositions. Par exemple, notre studio qui incube des start-up Camet, notre fonds d'investissement AXA Venture Partners, ou notre entité mondiale dédiée à l'industrialisation de propositions de services, AXA Partners. Cet écosystème, il est maintenant tendu vers l'objectif de mettre à disposition du plus grand nombre de nos clients ces nouveaux services dans l'ensemble des marchés dans lesquels nous opérons. Et c'est le cœur de la priorité pour les prochaines années, industrialiser ces innovations pour mieux servir nos clients existants, mais aussi atteindre beaucoup plus d'utilisateurs finaux des services. Je voudrais, dans les 3 dernières minutes de cette présentation, vous dire quelques mots concrètement sur nos 2 principales priorités, la santé et les plateformes, sur ces solutions. En santé, Thomas Buberl vous l'a dit, nous avons un objectif de développer nos services de télémédecine. Pour ceux d'entre vous qui vivez en France, et c'est, j'imagine, aujourd'hui l'essentiel du public, vous pouvez, dès aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas, utiliser CARE, notre service de télémédecine, qui vous donne accès en direct, par visioconférence, à une consultation avec une quinzaine de spécialités différentes de médecine, depuis la médecine générale pour des douleurs de base, si je puis dire, jusqu'à la dermatologie, nutritionniste, accompagnement en addictologie, l'ensemble de ces spécialités. Aujourd'hui, après quelques mois de mise en service, nous réalisons plus de 130 consultations chaque jour et nous avons l'objectif de mettre à disposition de l'ensemble des clients d'AXA France ce service progressivement en lien avec les équipes d'AXA France, avec Jacques de Peretti. C'est un service dont la satisfaction client est très proche de 100%. 98,5% des utilisateurs se disent extrêmement satisfaits. Et là, on voit bien comment, par ces services, on réussit à créer de la valeur et de la satisfaction client avec un lien beaucoup plus proche, beaucoup plus intime, je dirais même, dans la vie quotidienne de nos clients. Un autre exemple de ces services de santé, c'est MyEasy Santé, auquel vous pouvez également tous avoir accès, qui est une plateforme de conseil en matière de prévention et de bien-être pour mieux accompagner nos clients dans leurs efforts en matière de nutrition, en matière de prise en charge des addictions, en matière de bien-être au travail. Sur les plateformes, l'essentiel de notre effort se focalise sur la mise à disposition de solutions d'assurance à la demande. Et dans ce cadre-là, nous cherchons, avec les grands acteurs de l'économie numérique, à développer des solutions qui répondent vraiment aux besoins spécifiques de leurs utilisateurs. Prenez le cas de BlaBlaCar, l'une des seules licornes françaises, c'est-à-dire ces start-up qui aujourd'hui valent plus d'1 milliard d'euros sur le marché. Et BlaBlaCar, c'est une plateforme de covoiturage. Et les besoins d'assurance sont très différents de l'assurance habituelle automobile. Donc avec BlaBlaCar, nous avons développé une nouvelle solution d'assurance et d'assistance qui couvre le conducteur dans sa responsabilité vis-à-vis de passagers que bien souvent il ne connaît même pas, et les passagers, et qui permet aussi en termes d'assistance en cas de panne, de s'assurer qu'on va aller récupérer les passagers et le conducteur là où la panne a eu lieu, et que chacun sera bien acheminé vers son point d'arrivée initial, alors que dans un covoiturage, chacun va dans une destination différente. Cette solution, elle nous a permis de couvrir en 2018 10 millions de trajets en France et ce sont donc autant d'utilisateurs qui bénéficient de la protection quotidienne et concrète d'AXA sur un nouveau mode de mobilité. Donc vous voyez, l'ensemble de nos efforts, ils sont tendus vers une utilisation plus intensive des services. La couverture d'assurance, c'est une couverture dont vous espérez n'avoir jamais besoin, par définition. Car ça veut dire que quelque chose de désagréable s'est produit dans votre vie. Eh bien, en élargissant notre rôle et en transformant notre rôle vers un rôle de partenaire, nous voulons être présents pour vous au quotidien, dans les bons comme dans les mauvais moments, et c'est ainsi que nous pensons que nous allons accélérer la croissance d'AXA et mettre à disposition nos solutions de protection du plus grand nombre. Merci beaucoup pour votre attention.
Je remercie Guillaume Bory et donne à présent la parole à Céline Soubrane, directrice de la responsabilité d'entreprise d'AXA, qui va vous proposer une présentation sur la façon dont AXA agit en leader responsable.
Bonjour à toutes et à tous. Vous devez vous demander ce que signifie le titre de cette présentation, agir en leader responsable. Aujourd'hui, pour une entreprise comme AXA, agir en matière de responsabilité d'entreprise, c'est à la fois prendre en compte les attentes les plus exigeantes de nos clients, mais aussi répondre aux préoccupations de la société dans son ensemble, qu'elles soient sociales ou environnementales. Autrement dit, c'est agir en entreprise citoyenne. Et un de nos premiers rôles en tant qu'entreprise citoyenne, c'est intrinsèquement lié à notre métier d'assureur, c'est de protéger et de préserver notre patrimoine commun. C'est pour ça que depuis de très nombreuses années, AXA est mécène de grands symboles de notre culture nationale et internationale. Cette année encore, nous allons initier de grands partenariats avec le Musée du Louvre, le Centre Georges Pompidou pour l'art contemporain. Nous allons offrir un trésor national au Musée d'Orsay afin de le remettre dans le domaine public. Et nous soutenons également le Château de Versailles. Et puis, fort de cet engagement de longue date, forcément, nous avons tous été émus par l'incendie dramatique qui a touché la cathédrale Notre-Dame et nous avons mobilisé 10 millions d'euros pour la réparer et contribuer à sa reconstruction. Ben, merci. Merci, on est très fiers de ce geste que nous faisons pour notre patrimoine. Alors, notre rôle d'entreprise responsable, bien sûr, le fait d'être un mécène de notre patrimoine commun est quelque chose de très important, mais aujourd'hui, être entreprise responsable, ça intègre toutes les dimensions de notre stratégie, toutes les dimensions de nos activités. C'est un élément important de confiance dans notre marque qui a un impact fort sur les intentions d'achat de nos clients, de nos prospects, mais aussi qui oriente les choix des investisseurs. Thomas a mentionné tout à l'heure le classement DJSI, Dow Jones Sustainability Index. Il y a d'autres classements comme Vigeo qui chaque année évaluent notre performance d'entreprise responsable et qui scrutent tous les aspects de notre activité. Ça va de notre politique RH à la gestion environnementale des sites, en passant par notre transparence fiscale ou encore la façon dont nous traitons nos fournisseurs. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous détailler toutes ces actions que nous mettons en œuvre avec tous les métiers et les familles professionnelles d'AXA, mais simplement nous concentrer sur les trois grands engagements que nous avons pris et que Thomas a mentionné tout à l'heure, le changement climatique, la santé et la prévention, les inégalités sociales et l'inclusion. Alors, sur le changement climatique, vous le savez, on a été pionniers dans le secteur de la finance. Nous nous sommes désengagés de l'énergie charbon dès 2015, au moment de la COP21. Nous avons confirmé, été encore plus loin dans cet engagement en 2017, en nous retirant aussi en tant qu'assureur de ces activités. Et puis, nous les avons étendues aussi également, ce retrait des activités de production d'énergie liées au sable bitumineux. C'est en novembre dernier, toujours plus loin dans cet engagement, nous avons appliqué l'ensemble de cette politique à notre nouvelle division AXA XL. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, ces trois dernières années, ça nous a conduit à retirer 4,5 milliards d'investissements dans l'énergie. Et dans le même temps, nous avons également décidé de développer et d'investir dans la transition énergétique et de développer nos investissements dans tout ce qui est infrastructure verte, dans les énergies renouvelables, avec un objectif très ambitieux que nous nous sommes fixés de 12 milliards d'euros d'investissement vert d'ici 2020, donc dès l'année prochaine. Alors, nous sommes aujourd'hui de nombreux acteurs dans le secteur de la finance à avoir à contribuer à la lutte ainsi contre le changement climatique. Il faut savoir que c'est aujourd'hui 15% de la place des grands acteurs de la banque et de l'assurance qui se sont engagés ainsi. Et nous espérons être de plus en plus nombreux parce que ce ne sera qu'avec l'implication de tous que nous contribuerons réellement à atteindre les objectifs de limitation du réchauffement de la planète à moins de 2 degrés. Tels que les exigent les accords de Paris. Deuxième engagement très important, notre engagement en matière de prévention et de santé. Là encore, en tant qu'acteur majeur de l'assurance santé dans le monde, nous nous impliquons dans les grandes questions de santé publique et une des premières d'entre elles, c'est la lutte contre le tabac. Le tabac, ça reste la première cause de mortalité évitable dans le monde. C'est encore 7 millions de victimes, le tabac, chaque année dans le monde. Et ça touche les pays industrialisés, même si aujourd'hui la tendance à la consommation de tabac commence à stagner, voire à reculer. Mais ça touche encore plus aujourd'hui les pays émergents. Là encore, AXA a été pionnier. Nous avons été les premiers à désinvestir et à retirer nos couvertures d'assurance pour l'industrie du tabac. Et cette action a été reconnue en septembre dernier, très officiellement, à l'Assemblée générale des Nations unies. Et nous avons créé réellement, par cette décision courageuse, un mouvement collectif. Et l'an dernier, nous avons, justement, pendant l'Assemblée générale des Nations unies, aux côtés de l'OMS, aux côtés des grands ministres de la Santé venus du monde entier, nous avons lancé un appel pour que tous les investisseurs libèrent en quelque sorte leur portefeuille financier des investissements tabac. Et aujourd'hui, ce sont aujourd'hui 550 signataires qui nous ont rejoints dans ce mouvement collectif. Dernier grand engagement citoyen, c'est la lutte contre les inégalités et notre action en faveur de l'inclusion sociale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même si le niveau de vie globalement augmente au niveau mondial, même si les richesses se sont accrues, dans le même temps, les inégalités se sont creusées depuis ces 30 dernières années entre les fractions les plus riches et les fractions les plus pauvres de la population. Et ce creusement des inégalités concerne toutes les zones géographiques, que ce soit l'Asie, les États-Unis, l'Amérique latine ou encore la Russie, et même l'Europe, même si la tendance est un peu moins marquée grâce à nos systèmes de redistribution sociale. Et là encore, nous avons un rôle à jouer en tant qu'entreprise citoyenne à deux niveaux. D'abord en apportant un secours aux plus démunis et puis aussi en travaillant nos produits et services pour les rendre les plus accessibles. C'est dans cet état d'esprit qu'on a rejoint notamment en décembre dernier le collectif de 19. Les 19, ce sont 19 grands groupes français tels que Danone, Carrefour, Accor, Adecco, qui ont décidé d'agir pour plus d'inclusion sociale et économique. Dans ce cadre, AXA France notamment a décidé d'offrir à 1000 familles monoparentales en situation de bas revenus une couverture de rente d'éducation pour leurs enfants en cas de coup dur. Nous avons également un programme en Italie et en France également de soutien aux femmes victimes de violences. On les accompagne psychologiquement, juridiquement et financièrement lorsqu'elles sont dans cette situation de détresse. La précarité, ça génère aussi des problèmes d'accès à la santé et aux soins pour les populations les plus vulnérables, ce qui fragilise encore plus leur situation. C'est pour ça, par exemple, qu'AXA Maroc a mis en place une très belle initiative de caravane de la santé qui part à la rencontre des populations exclues des systèmes traditionnels de soins. Et depuis 2011, depuis la mise en place de cette caravane de la santé, ce sont 6000 consultations gratuites qui ont été ainsi dispensées. En Inde, nous mettons en place des partenariats publics-privés avec les États locaux de façon à assurer une couverture santé minimale aux populations situées en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, comme je le mentionnais, on travaille notre gamme de produits pour les rendre plus inclusifs à certaines populations vulnérables, en travaillant le niveau de garantie, en travaillant le coût marginal. C'est le cas, vous le voyez derrière moi, on a un produit de micro-assurance en France pour les micro-entrepreneurs. On couvre aussi au Mexique en micro-assurance les habitations de communautés exposées aux catastrophes naturelles. Et globalement, vous aviez eu l'an dernier, lors de cette même Assemblée générale, la présentation de ma collègue Garance Vatez-Richard qui vous avait présenté une gamme très complète de produits inclusifs qu'on développe dans les pays émergents, c'est ce qu'on appelle donc communément la micro-assurance, et qui nous permet aujourd'hui de toucher près de 10 millions de clients. Donc ces grands engagements, le changement climatique, la santé et la prévention, les inégalités sociales, ce sont aussi nos collaborateurs qui les portent au quotidien, nos 120 000 collaborateurs dans les 60 pays où nous sommes présents. Ils les portent au quotidien dans leur métier, mais aussi au-delà, parce qu'ils donnent de leur temps et de leurs compétences dans le cadre de notre programme de volontariat AXA à tout cœur, que je vous propose de découvrir tout de suite en images. 2018, ce sont donc plus de 30 000 collaborateurs bénévoles qui ont donné, vous l'avez vu, plus de 100 000 heures de bénévolat. C'est vraiment un élément fort de notre culture d'entreprise dont on est très fiers et que j'ai été très heureuse de partager avec vous cet après-midi. Merci de votre attention.
Je remercie Céline Souleymane pour cette présentation et je vais à présent demander à Gérald Darlin de bien vouloir vous présenter la performance de l'exercice 2018. Mais auparavant, je vous propose de regarder un film qui retrace les faits marquants de l'année passée.
Bonjour mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats et la solidité financière de votre groupe. Et en commençant par la croissance, en 2018, la croissance a été dynamique et rentable et tirée par nos trois segments cibles et vous voyez bien que la croissance est forte, en dommages entreprises plus 5%, en prévoyance, plus 3%, en santé, plus 7%. Cette croissance, elle n'a pas été faite aux dépens de notre rentabilité, bien au contraire. Les ratios combinés en prévoyance et en santé s'améliorent, de même que le dommage hors AXA XL. Donc, une bonne croissance liée à nos trois lignes de métiers prioritaires. Regardons maintenant le résultat opérationnel. En 2018, nous avons réalisé une très bonne croissance du résultat opérationnel à travers le groupe, à commencer par la France. Vous voyez que le résultat opérationnel a augmenté de 10%, en Europe, plus 10%, en Asie, plus 5%, aux États-Unis, plus 4%, international et ligne transversale, plus 24%, AXA XL affiche une perte de 0,2 milliard d'euros du fait des catastrophes naturelles. Et justement, je vous propose de faire un point sur le résultat d'AXA XL. Nous consolidons XL que depuis le 1er octobre 2018. Le résultat 2018 d'AXA XL se compose donc du résultat du dernier trimestre pour XL, et du résultat annuel pour AXA Corporate Solutions et AXA Art. Je vous propose de regarder le graphe qui se trouve au milieu de la diapositive. Et ce graphe, il vous explique pourquoi nous affichons une perte de 0,2 milliard d'euros pour AXA XL. De gauche à droite, donc, normalement, au quatrième trimestre, la contribution au résultat de XL, sur la base d'un niveau de catastrophe naturelle normalisé, aurait dû être de 0,2 milliard d'euros. Au quatrième trimestre 2018, nous avons subi l'ouragan Michael et les feux de forêt en Californie, le tout représentant l'équivalent de 0,5 milliard d'euros. En tout, au quatrième trimestre, donc, le résultat XL publié est de moins 0,4 milliard d'euros, auquel a lieu d'ajouter la contribution sur l'année 2018 d'AXA Corporate Solutions et d'AXA Art, soit 0,1 milliard. Au total, donc, une perte de 0,2 milliard pour AXA XL. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, on a bénéficié d'une forte croissance de nos activités, plus 10%, et les conditions de marché s'améliorent. Elles se sont améliorées en 2018 avec une hausse tarifée des hausses tarifaires en moyenne de 4%, et les renouvellements du mois de janvier 2019 sont bons avec des hausses tarifaires de plus 4% en assurance notamment. Donc il faut retenir que AXA XL a été touché par un niveau anormalement élevé de catastrophes naturelles en 2018. Mais nous confirmons notre objectif de résultat opérationnel d'AXA XL pour 2020. Cet objectif, il est un résultat opérationnel de 1,4 milliard d'euros avec un niveau normalisé de catastrophe naturelle de 4% des primes brutes. Nous sommes donc confiants dans cet objectif grâce notamment aux synergies que nous anticipons. Je vous propose maintenant de regarder la performance de la France. Le résultat opérationnel, comme je vous l'ai dit, on a un résultat solide et les objectifs clés ont été pour nous atteints. On a un résultat opérationnel qui est en forte hausse de plus 10%, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ce résultat opérationnel très élevé, il est expliqué par une croissance dynamique de nos segments prioritaires, plus 12% en santé, plus 5% en prévoyance, plus 3% en dommages entreprises. Mais c'est aussi expliqué, et vous le voyez au milieu, par une amélioration de nos ratios combinés. C'est-à-dire qu'on fait plus de profits techniques et comme vous pouvez le voir, tous les ratios combinés sont en baisse. De même, le taux d'UC, qui est à 39%, eh bien on peut noter que le taux d'UC reste environ 10 points supérieur à celui du marché français. Donc, le niveau d'unité de compte reste à un niveau très élevé et supérieur à celui du marché. Donc, une très bonne année pour AXA France. Le résultat groupe pour 2018 maintenant. Alors, le résultat opérationnel est un plus haut historique, il faut le dire, avec 6 182 millions d'euros. Le résultat opérationnel est en croissance de plus 6%. Le résultat courant maintenant, il est en croissance de plus 3%. L'écart avec la croissance du résultat opérationnel s'explique par la baisse des marchés à la fin de l'année 2018. Le résultat net, il est à 2 140 milliards et cette baisse entre le résultat net et le résultat courant s'explique principalement par deux éléments. Le premier, qui est l'amortissement de l'écart d'acquisition d'AXA Equitable, et ça, c'est lié aux cessions. Et deuxièmement, comme vous l'avez mentionné Thomas tout à l'heure, c'est l'impact des opérations exceptionnelles et principalement l'arrêt de notre activité d'épargne en retraite en Suisse. Donc ces deux éléments que je viens de mentionner sont des éléments exceptionnels et par définition, ils sont non récurrents et ils sont liés à la transformation d'une société qui passe d'une société majoritairement vie à une société qui sera majoritairement dommage. Je vous propose de regarder le bilan maintenant. Et donc, les deux principaux indicateurs, c'est les capitaux propres et le ratio de solvabilité. Les capitaux propres sont à 62,4 milliards. La baisse par rapport à l'an dernier est expliquée par une baisse des plus-values latentes actions à la fin de l'année 2018, au moment où on a eu cette baisse de marché. Et c'est aussi dû à une remontée des taux d'intérêt, des spreads, des taux des obligations, en fait. Bon, une bonne partie de cette baisse, il faut le dire, a été rattrapée depuis grâce à l'excellente performance des marchés depuis le début d'année. Le ratio de solvabilité à 193% est à un très bon niveau. Et les notations financières, vous voyez qu'on est équivalent double A moins auprès des trois agences. C'est un niveau très solide. On est très fiers d'avoir retrouvé les ratings d'avant l'acquisition d'XL. Et ceci confirme en fait la confiance des agences de rating dans notre transformation. Qu'en est-il donc où nous en sommes dans le plan Ambition 2020 ? Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, nous sommes en très bonne voie pour atteindre les objectifs d'Ambition 2020. Commençons d'abord par le résultat opérationnel par action. Comme je vous l'ai dit, il est en hausse de plus 3%. Et en moyenne, c'est-à-dire entre 2015 et 2018, il a connu une augmentation de plus 5% par an. C'est tout à fait en ligne avec notre objectif de 3 à 7% sur la durée du plan entre 2015 et 2020. Voyons le cash flow et le cash flow opérationnel qui a été de 6,6 milliards à un niveau élevé en 2018, ce qui fait que nous devrions être plutôt dans le haut de la fourchette de 28 à 32 milliards qui est prévu en cumul entre 2015 et 2020. Le ROE courant maintenant, il est à 14,4%. Je vous rappelle qu'en novembre dernier, lors de notre journée investisseur, on a relevé cet objectif de rentabilité sur fonds propres. Il était entre 12 et 14% avant. On l'a remonté à 14, entre 14 et 16, ce qui est un très bon signal. Le ratio de solvabilité, il est à 193%. Il est bien en ligne avec notre cible comprise entre 170 et 220%. Là aussi, ça a été revu en novembre dernier. Avant, la fourchette était comprise entre 170 et 230%. Alors, ces très bons résultats et ces très bons indicateurs se traduisent dans la hausse du dividende. Alors, nous proposons donc un dividende en hausse de 6% à 1,34 euros. Vous pouvez noter à droite que le taux de distribution est de 52%. Je vous rappelle qu'avant, le taux de distribution était compris entre 45 et 55% du résultat courant. Nous avons revu à la hausse cette fourchette et maintenant, il est compris entre 50 et 60%. Donc, avec un dividende de 1,34 euros, on peut dire que ça fait de notre titre un des rendements les plus attractifs du marché. Pour conclure maintenant, pour AXA, 2018 se résume à quatre faits marquants. Premièrement, l'accélération de la croissance qui a été tirée par les segments cibles. Deuxièmement, le résultat opérationnel est à un niveau historiquement élevé. On est en très bonne voie pour atteindre les objectifs du plan Ambition 2020. Enfin, une nouvelle hausse du dividende. Je vous remercie pour votre attention.
Je remercie Gérald Darlin et vous propose de regarder à présent un film de présentation du dispositif de relations actionnaires du groupe. merci, chers actionnaires, de votre fidélité à AXA. Avant de donner la parole à Jean-Martin Folz, qui va vous présenter la gouvernance de la société et la politique de rémunération de ses dirigeants, je voulais vous indiquer que Jean-Martin Folz, administrateur de votre société depuis 12 ans, avait pris la décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administrateur. Il quittera donc le Conseil à l'issue de notre Assemblée. Je tiens, au nom du Conseil d'administration d'AXA, à le remercier très chaleureusement pour sa contribution aux travaux du Conseil de surveillance puis du Conseil d'administration au cours de ces 12 dernières années. Son expérience, sa vision stratégique et sa contribution en qualité de président du comité de rémunération et de gouvernance et d'administrateur indépendant référent au cours de ces deux années et demie, ont été déterminantes pour l'évolution de notre gouvernance et pour le développement d'AXA. Je lui laisse à présent la parole.
Mesdames et messieurs les actionnaires, c'est donc en tant qu'administrateur indépendant référent que je viens de vous rendre compte d'une part du fonctionnement de la gouvernance d'AXA en 2018 et d'autre part de la politique de rémunération de ses dirigeants. D'abord la gouvernance. Vous voyez à l'écran la composition actuelle du conseil d'administration de votre société. Le conseil comprend à ce jour 16 membres, 8 femmes et 8 hommes, et 8 nationalités y sont représentées. La proportion de femmes au sein du conseil est aujourd'hui de 50%, et s'élèvera, sous réserve de l'approbation des résolutions proposées, à 53% à l'issue de la présente Assemblée. Par ailleurs, et toujours sous réserve de notre approbation, à l'issue de notre Assemblée, le Conseil sera composé de près de 50% de membres de nationalité étrangère. Cette diversité, qui se combine avec une variété de natures de fonctions et de parcours professionnels, favorise la profondeur et la qualité des débats au sein du Conseil. Parmi les critères définis lors du processus de sélection des membres du Conseil figure la recherche d'un équilibre approprié entre les compétences techniques et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une diversité en matière d'âge, de nationalité et de culture des administrateurs. Enfin, tous les ans, le Conseil s'attache à apprécier la situation d'indépendance de chacun de ses membres au regard des recommandations du Code AFEP-MEDEF. Début 2019, le Conseil d'administration a ainsi considéré 10 de ses membres, sur un total de 16, comme indépendants. Apparaît maintenant à l'écran une synthèse du fonctionnement du Conseil d'administration. Comme vous le savez, il revient au Conseil de prendre les décisions les plus importantes, notamment de décider la dissociation ou non des fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général, et de nommer la direction générale. Le Conseil bénéficie par ailleurs des travaux de ces 3 comités, qui ont un rôle de préparation de ces décisions au travers de recommandations. Enfin, en ma qualité d'administrateur indépendant référent, je m'assure notamment que les administrateurs indépendants peuvent effectivement jouer le rôle important qui est le leur. En pratique, je participe à la préparation de chaque réunion du Conseil en lien avec le président du Conseil et avec la direction générale. Nous revoyons ensemble le calendrier des réunions, leurs ordres du jour, ainsi que les documents adressés aux membres du Conseil. À l'issue de notre Assemblée, et sous réserve de votre approbation de ce renouvellement de mandat, Jean-Pierre Clamadieu exercera les fonctions d'administrateur indépendant référent et de président du comité de rémunération et de gouvernance. Jean-Pierre Clamadieu est administrateur de notre société depuis 2012 et membre du comité de rémunération et de gouvernance depuis 2015. Le Conseil a décidé de le désigner pour me succéder, compte tenu de son expérience, sa connaissance du groupe et de sa forte implication dans les travaux du Conseil. Concernant maintenant les travaux du Conseil, l'exercice 2018 a été marqué par une activité soutenue. Le Conseil s'est réuni 12 fois avec un taux moyen d'assiduité de ses membres de 97%. Les 3 comités du Conseil ont quant à eux tenu au total 19 réunions en 2018, avec là aussi un taux moyen d'assiduité de 97%. Les principaux sujets que le Conseil a eu à traiter au cours de l'exercice écoulé sont les suivants. La stratégie du groupe, bien sûr, la revue du projet d'acquisition du groupe XL et son intégration dans le groupe AXA, l'introduction en bourse des activités américaines d'assurance vie et de gestion d'actifs, les acquisitions et cessions significatives, l'examen et l'arrêté des comptes annuels et semestriels, la politique de gestion du capital et de distribution de dividendes, la revue du rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, la revue du modèle interne d'accent et des politiques écrites établies dans le cadre de la réglementation de solvabilité 2, enfin la composition du Conseil et de ses comités. Comme chaque année, le Conseil d'administration a également procédé à l'évaluation de son fonctionnement. En 2018, cet exercice a été conduit par un consultant externe qui a recueilli les contributions de chaque administrateur ainsi que leurs appréciations et suggestions sur les travaux et le fonctionnement du Conseil. Il a par ailleurs recueilli l'avis de chaque administrateur sur la participation et la contribution de chacun des autres membres du Conseil à ses travaux. Le président du Conseil a par la suite communiqué à chaque administrateur, au cours d'entretiens individuels, les conclusions relatives à leur contribution personnelle. Et j'ai quant à moi fait part au président des conclusions relatives à sa contribution. Les conclusions générales de cette auto-évaluation et les principaux axes de progrès identifiés ont été revus en détail par le comité de rémunération et de gouvernance qui a émis des recommandations qui ont été examinées et approuvées par votre conseil en décembre dernier. À cette occasion, les administrateurs ont souligné que la qualité de fonctionnement du conseil s'était améliorée ou selon les avis était restée à un niveau élevé grâce à la maturité de ces processus ainsi qu'à l'efficacité et à la fluidité de la relation entre le président et le directeur général. Les principaux points d'amélioration identifiés au cours de cet examen sont les suivants. D'abord, la nécessité d'apporter une attention toute particulière à la sélection des futurs administrateurs afin de proposer la nomination de personnalités ayant des compétences prédéfinies dans les domaines de l'assurance, de la finance, du numérique, des technologies, des ressources humaines ou encore du marketing. Ont également été soulignées la nécessité de réduire le nombre d'administrateurs siégeant au Conseil, ainsi que l'importance de maintenir la fonction commune d'administrateur indépendant référent et de président du comité de rémunération et de gouvernance, ces deux fonctions étant intimement liées. Enfin, et toujours dans le cadre de cette auto-évaluation, les administrateurs ont indiqué leur souhait que soit poursuivi et développé l'envoi régulier par le directeur général aux membres du Conseil de notes d'information relatives à l'actualité du secteur de l'assurance ou aux annonces publiques faites par la société. Dans la perspective de votre vote, qui aura lieu tout à l'heure, il sera proposé de renouveler le mandat de Jean-Pierre Tamadieu. Je vous laisse prendre connaissance de sa biographie. Je vous rappelle que sous réserve de votre vote, il exercera à l'issue de l'Assemblée les fonctions d'administrateur indépendant référent et de président du comité de rémunération et de gouvernance pour la durée de son mandat d'administrateur. Lors du vote, il vous sera également proposé de ratifier la cooptation d'Hélène Zarzynski en qualité d'administratrice. Son CV vient de s'afficher à l'écran. La cooptation d'Hélène Zarzynski a été décidée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 24 mai 2018, en remplacement de Diana Oppenheimer, qui avait souhaité mettre fin à ses fonctions en raison de nouvelles responsabilités. Enfin, je vous rappelle qu'en application des dispositions légales, deux administrateurs représentant les salariés ont rejoint le conseil d'administration en 2018. D'une part, Martine Bièvre, inspecteur régleur de sinistres au sein d'AXA Particulier et ARD Entreprise depuis 2011, a ainsi été désignée par le comité de groupe France le 13 juin 2018. Et Bettina Kram, qui exerce dans le domaine de la santé chez AXA Concern AG, principale filiale allemande du groupe, a été désignée par le comité d'entreprise européen le 20 juin dernier. Sous réserve de l'approbation des résolutions que je viens de vous présenter et compte tenu du non-renouvellement de mon mandat, la taille du Conseil sera réduite de 16 à 15 membres à l'issue de l'Assemblée générale. Après cette présentation du fonctionnement de la gouvernance d'AXA en 2018, je souhaite vous rendre compte maintenant de la politique de rémunération de ses dirigeants. Conformément aux dispositions légales, votre Assemblée est invitée à se prononcer sur les éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2018 à chaque dirigeant mandataire social, ainsi que sur la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux de la société pour l'exercice 2019. Au total, ce sont donc 4 résolutions qui seront soumises à votre vote, 2 résolutions portant sur les rémunérations ex post du président du Conseil et du directeur général, et 2 résolutions visant leur rémunération ex ante pour l'année 2019. Dans ce contexte, vous trouverez résumé dans le tableau figurant à l'écran les différents composants de la rémunération des dirigeants et des cadres supérieurs d'AXA. La rémunération en numéraire à court terme est constituée du salaire fixe et d'une partie de la rémunération variable annuelle. Viennent ensuite des éléments de rémunération différée, constitués de l'autre partie de la rémunération variable annuelle, ainsi que des options et actions de performance. Cette structure de rémunération vise à favoriser la convergence des intérêts du management avec ceux de la société et de ses actionnaires, sur le moyen comme sur le long terme. Dans la préparation des propositions qu'il fait au Conseil concernant la rémunération du directeur général, le comité de rémunération et de gouvernance apprécie l'ensemble des éléments de cette rémunération. Il étudie également, bien entendu, les pratiques de rémunération du marché de référence, constituées de sociétés comparables à AXA au niveau européen et mondial, avec pour objectif de proposer une structure cohérente et des niveaux de rémunération qui soient compétitifs, d'encourager la performance et d'aligner le niveau de rémunération réellement perçu avec les résultats de la société. Le comité de rémunération revoit de manière régulière les principes généraux de la politique de rémunération du groupe. Il est à ce titre attentif à l'équité interne et à la bonne prise en compte de la performance individuelle et collective. Ainsi, le Conseil, sur proposition de son comité de rémunération, a décidé de fixer la rémunération annuelle cible en numéraire du directeur général à 2 900 000 €. Cette rémunération se décompose d'une rémunération fixe et une rémunération variable cible. La rémunération fixe annuelle est de 1 450 000 € et la rémunération variable annuelle cible, qui est intégralement soumise à des conditions de performance exigeantes et alignée avec la stratégie du groupe, est elle aussi bien sûr de 1 450 000 €. La détermination du montant de la rémunération totale du directeur général, ainsi que l'équilibre entre ses composantes, le fixe et le variable, s'appuie notamment sur une étude réalisée par un conseil externe relative aux pratiques de rémunération pour des fonctions similaires dans un échantillon de sociétés du CAC 40 et dans les principales sociétés internationales du secteur financier. En outre, et afin d'associer le directeur général à la création de valeur sur le long terme, le conseil d'administration lui attribue chaque année des Long Term Incentives, LTI, sous la forme d'options et d'actions de performance. Ces LTI sont intégralement soumises à des conditions de performance exigeantes, internes et externes, et ne garantissent donc pas de gain minimum. Ces LTI représentent une part importante de la rémunération du directeur général. Ainsi, la valeur des LTI qui lui sont attribués est déterminée de façon à positionner sa rémunération globale, en numéraire et en titre, entre la médiane et le troisième quartile des références du marché. Par ailleurs, le directeur général ne bénéficie d'aucun régime de retraite supplémentaire à prestations définies, les fameuses retraites chapeau. Il est bénéficiaire, au même titre que l'ensemble des cadres de direction des entités du groupe AXA en France, du plan d'action de performance dédié à la retraite, au titre duquel les attributions, également soumises à conditions de performance, sont réalisées annuellement. Enfin, le directeur général bénéficie d'une indemnité en cas de cessation de ses fonctions, qui est soumise à des conditions de performance, et dont le montant, initialement fixé à 12 mois de sa rémunération, est augmenté d'un mois supplémentaire par nouvelle année d'ancienneté, sans pouvoir au total excéder 24 mois. J'ajoute, mais vous l'aurez noté, que la rémunération cible en numéraire du directeur général est inchangée depuis sa nomination en 2016 et restera identique en 2019. Le conseil d'administration a également déterminé la rémunération du président du conseil. Conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF, le conseil a considéré que la structure de rémunération la mieux adaptée consistait à ne verser au président du conseil qu'une rémunération fixe. En vue de la détermination du montant de cette rémunération, le conseil a pris en compte les missions étendues qu'il a décidé d'attribuer à Denis Duverne en sa qualité de président et a consulté pour ce faire un cabinet externe. Le conseil a également pris en considération le fait que Denis Duverne, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2016, a décidé de renoncer au versement de la rente qui lui est due au titre du régime de retraite supplémentaire, dont le montant annuel s'élève à environ 750 000 euros. Denis Duverne a décidé de n'en bénéficier qu'à l'issue de son mandat de président du conseil d'administration, sans application d'aucun paiement rétroactif. Le conseil a en conséquence décidé de fixer le montant de la rémunération annuelle du président du conseil à 1 200 000 €, et cette rémunération, qui est inchangée depuis la nomination de Denis Duverne en 2016, restera identique en 2019. Je propose maintenant d'examiner la rémunération variable attribuée au titre de 2018, donc le cas particulier de l'année 2018, attribuée au directeur général. L'évaluation de la performance annuelle du directeur général s'appuie en fait sur deux composantes, la performance du groupe d'une part et sa performance individuelle de l'autre. La performance du groupe est appréciée en fonction de l'évolution de quatre critères. le résultat opérationnel par action, la rentabilité courante des capitaux propres, le chiffre d'affaires dans les secteurs stratégiques prioritaires, l'assurance dommages d'entreprise et la prévoyance et santé, et enfin, l'indice de recommandation des clients, le fameux Net Promoter Score. Les indicatifs retenus sont donc directement liés aux orientations stratégiques du groupe et s'appuient sur l'atteinte d'un montant ou d'un score cible préalablement établi. Au début de l'année 2018, le conseil d'administration avait décidé d'apprécier la performance du groupe pour l'exercice en cours en neutralisant l'impact de deux opérations. D'une part, les opérations en capital réalisées en 2018, y compris l'introduction en bourse de la société américaine AXA Equitable et l'acquisition du groupe XL, et d'autre part, le rachat d'actions en excès des volumes requis pour éliminer l'effet dilutif provenant de l'attribution d'actions de performance au salarié du groupe. Cependant, et compte tenu du score très élevé de la performance du groupe neutralisée des éléments mentionnés à l'instant, en l'occurrence 137% de performance, le conseil d'administration, sous proposition de son comité de rémunération, a finalement décidé de prendre également en considération la performance du groupe incluant les deux opérations précitées, savoir l'introduction en bourse d'AXA Equitable et l'acquisition du groupe XL, aboutissant ainsi à un score de 89%, et de retenir la moyenne des scores de performance du groupe avec et sans la neutralisation, soit une performance du groupe fixée à 113%. Quant à la performance individuelle, celle-ci est appréciée en fonction d'objectifs spécifiques revus chaque année. Différents indicateurs et objectifs qualitatifs et quantifiables sont ainsi fixés par le conseil d'administration dans une lettre de mission établie avant la période de mesure de la performance. Le conseil d'administration évaluait la performance individuelle de Thomas Buberl selon 5 grands objectifs fixés dans sa lettre de mission. L'introduction en bourse à la société américaine AXA Equitable Holdings et le redéploiement des fonds propres pour environ 20%, la poursuite des objectifs du plan Ambition 2020 et de la stratégie de croissance du groupe, pour 35%, l'accélération de la stratégie d'innovation, pour 20%, le renforcement du pool de talents du groupe, ainsi que le développement personnel des cadres supérieurs, pour 15%, et enfin le renforcement du contrôle interne de la sécurité informatique, pour 10%. La performance individuelle du directeur général pour 2018 a ainsi été évaluée par le Conseil à 105%. Et donc la rémunération variable effective au titre de 2018 à verser au directeur général, sous réserve de votre approbation, que nous sera sollicitée tout à l'heure, s'élève ainsi à 1 725 500 euros, soit 119% de sa rémunération cible. Le conseil d'administration a décidé de reconduire pour le directeur général un mécanisme de paiement différé d'une partie égale à 30% de cette rémunération variable sur une période de 2 ans. Le montant effectivement payé pourra ainsi varier en fonction de l'évolution du cours de bourse d'action AXA pendant la période de différé, dans la limite d'un plancher égal à 80% du montant différé et d'un plafond égal à 120%. L'introduction de cette partie différée au sein de la rémunération variable, bien que non requise à ce jour par la réglementation française applicable, est destinée à renforcer l'alignement d'AXA avec les pratiques et réglementations internationales en vigueur dans le secteur des services financiers en matière de rémunération des dirigeants. AXA mène par ailleurs une politique d'attribution d'options et d'actions de performance à ses collaborateurs en France comme à l'international. Ces attributions, réalisées sans décote, ont lieu chaque année à la même époque. La totalité des options attribuées aux membres du conseil de direction, dont le directeur général, sont soumises à conditions de performance et ne deviennent exerçables que si la performance du titre AXA dépasse celle de l'indice boursier de référence du secteur de l'assurance, l'indice SXIP. Le conseil d'administration a également décidé qu'à compter d'attribution d'options effectuées en 2017, l'exercice d'option sera suspendu en cas de résultat net par du groupe négatif, et ceci aussi longtemps que le résultat resterait ainsi négatif. S'agissant de la notion de performance, tous les bénéficiaires, quelle que soit leur position dans la hiérarchie, sont soumis à des conditions de performance pour 100% des actions attribuées. Les critères de performance portent à la fois sur la performance du groupe pour 40%, en l'occurrence le résultat courant par action, et la performance de l'entité d'appartenance du bénéficiaire pour 50%, en l'occurrence la moyenne du résultat courant et du résultat opérationnel. Enfin, pour 10%, la performance du groupe en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, la fameuse RSE. Ce dernier critère, basé sur l'indice de référence pour la RSE, le Dow Jones Sustainability Index, DJSI,
compte pour 10% du taux de performance global. Enfin, en ligne avec les meilleures pratiques de place, ainsi qu'avec les recommandations des régulateurs du secteur financier et des autres parties prenantes, les actions de performance sont assorties d'une période d'acquisition d'une durée minimale de 3 ans, complétée pour les membres du comité de direction d'une période de conservation obligatoire de 2 ans. Les stock options sont quant à elles exerçables par tiers, à compter du 3e, 4e et 5e anniversaire selon leur date d'attribution. L'objectif, ainsi recherché, est de mesurer la performance conditionnant l'acquisition définitive des actions sur une période au moins égale à 3 ans. Tous ces éléments de rémunération des dirigeants d'AXA que je viens de passer en revue sont décrits de manière encore plus détaillée dans le document de référence 2018 d'AXA, tenu à votre disposition à l'entrée de la salle ou sur le site internet de la société, et je vous invite à les consulter si vous souhaitez plus de précisions. Voyez à présent s'afficher à l'écran l'historique des attributions d'options et d'actions de performance entre 2011 et 2018. Début 2012, la décision a été prise de limiter les attributions d'options aux seuls 4 dirigeants du groupe, ce qui explique la diminution du nombre de bénéficiaires. À compter de 2019, seuls les membres du comité de direction se verront attribuer des stock options. Pour les autres collaborateurs du groupe, la valeur des actions de performance attribuées sera augmentée. Vous constaterez qu'en 2018, plus de 7300 collaborateurs du groupe se sont vus attribuer des actions de performance. En juin prochain, le conseil d'administration procédera à une nouvelle attribution d'options et d'actions de performance. J'ajoute que depuis 2016, l'ensemble des cadres de direction des entités du groupe AXA en France, soit environ 500 personnes, bénéficient d'un plan d'action de performance dédié à la retraite, qui faisait allusion tout à l'heure, au titre duquel des attributions intégralement soumises à conditions de performance sont réalisées annuellement. En décembre prochain, le conseil d'administration procédera à une nouvelle attribution d'actions de performance dédiées à la retraite. Je tiens à souligner enfin que ces attributions, qui représentaient l'année dernière 0,24% du capital, sont réalisées sans aucune dilution pour l'actionnaire, compte tenu du choix qui a été fait de livrer des actions existantes. Enfin, quelques mots sur la politique du groupe en matière d'actionnariat salarié et la participation des salariés au capital d'AXA. AXA mène de longue date une politique volontariste d'actionnariat des salariés. Chaque année, le groupe propose à ses collaborateurs, en France et à l'international, une opération d'actionnariat salarié, intitulée Cherplan, sous la forme d'une augmentation de capital qui leur est réservée. En 2018, plus de 24 000 salariés dans 36 pays ont participé à l'opération d'augmentation de capital pour un montant total de souscription de près de 330 millions d'euros, correspondant à l'émission de plus de 15 millions d'actions nouvelles. Et afin d'éliminer l'effet dilutif de l'offre Cherplan, il était procédé, comme les années précédentes, au rachat, puis à l'annulation d'un nombre d'actions équivalents. Au 31 décembre 2018, les salariés et agents du groupe détenaient ainsi 5,2% du capital et 6,4% des droits de vote de la société. Mesdames et messieurs, ceci conclut ma présentation. Mais avant de quitter cette tribune, je voudrais encore vous dire que ce fut pour moi un honneur de siéger au conseil d'administration de votre société au cours des 12 dernières années, et d'avoir pu ainsi accompagner AXA dans sa transformation. Je tiens, chers actionnaires, à qui je dois d'être ici, à vous remercier, ainsi que mes collègues du conseil d'administration et la direction de la société, à qui je souhaite le meilleur pour l'avenir. Je vous remercie de votre attention.
Je remercie Jean-Martin Foltz pour cette présentation et pour ses encouragements. Je vous indique que le rapport sur le gouvernement d'entreprise, établi conformément aux dispositions des articles L225-37 et suivants du Code de commerce, figure en page 481 du rapport annuel. Et je vais maintenant demander à M. Xavier Crépon du cabinet PricewaterhouseCoopers et à M. Jean-Claude Poli du cabinet Mazars de bien vouloir présenter leur rapport à l'Assemblée.
Mesdames et Messieurs les actionnaires, donc nous avons cette année 9 rapports à vous présenter. Nous en ferons donc une présentation abrégée. Je vous présenterai nos rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés ainsi que sur les conventions réglementées. Je laisserai ensuite la parole à Xavier Crépon pour vous présenter les rapports sur les opérations relatives au capital. Donc en ce qui concerne tout d'abord nos rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés. Nous rappelons que l'objectif de notre mission est d'obtenir une assurance raisonnable sur la régularité, la sincérité, l'image fidèle des comptes et sur le fait que ceux-ci ne comportent pas d'anomalies significatives. Pour cela, nous nous appuyons sur les travaux de nos cabinets dans les différentes entités qui font partie du périmètre de consolidation du groupe. En ce qui concerne les comptes annuels de la société mère, la société AXA, nous avons conclu à une certification sans réserve des comptes qui ont été arrêtés par votre conseil d'administration. En termes de points clés de l'audit, nous avons développé nos appréciations sur la justification de l'évaluation des titres de participation, et cette année tout particulièrement ceux de AXA Equitable aux États-Unis. En ce qui concerne les vérifications spécifiques prévues par la loi, ainsi que les informations qui vous ont été communiquées cette année, nous n'avons pas d'observations à formuler. En ce qui concerne les rapports sur les comptes, notre rapport sur les comptes consolidés, nous avons également conclu à une certification sans réserve des comptes du groupe. Nous avons développé les points clés de l'audit suivants. L'évaluation des provisions mathématiques en assurance vie, les provisions pour sinistres en assurance dommage, l'évaluation des écarts d'acquisition, notamment pour l'unité génératrice de trésorerie en assurance vie, et cette année, avec l'acquisition du groupe XL, l'affectation du prix d'acquisition aux actifs et passifs identifiés. Concernant le rapport de gestion du groupe, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance des informations qui ont été données. Je passe à présent au rapport sur les conventions réglementées. Donc je vous rappelle que l'objectif de notre rapport est de porter à votre connaissance les conventions sur lesquelles nous avons été informés. Nous n'avons pas pour objectif de nous prononcer sur l'utilité ou le bien fondé de ces conventions. Il n'y a pas eu cette année de nouvelles conventions qui soient soumises à votre approbation. Il y a deux conventions qui se poursuivent et qui ont été approuvées au cours des années précédentes. La première concerne M. Thomas Bouberle. Suite à la renonciation à son contrat de travail, il lui a été octroyé une protection sociale conforme à celle des salariés du groupe AXA et également l'attribution d'une indemnité en cas de cessation de fonction sous réserve de l'atteinte de conditions de performance. La deuxième convention qui se poursuit concerne M. Denis Duverne et également à la suite de la cessation de son contrat de travail, l'octroi d'un régime de protection sociale. Tous ces éléments sont détaillés dans nos rapports qui figurent dans le document de référence aux pages 470, 370 et 160. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole pour les autres rapports.
Bonjour, mesdames, messieurs les actionnaires. Il me reste donc quatre rapports à vous présenter. J'ai le plaisir de vous présenter nos rapports sur quatre demandes d'autorisation ou délégations qui sont aujourd'hui soumises à votre approbation dans le but de permettre à votre conseil d'administration de réaliser des opérations relatives au capital. Notre premier rapport concerne les émissions d'actions ou de valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription. Vous trouverez à l'écran l'ensemble des modalités spécifiques de la première opération, avec une autorisation sur 26 mois et des plafonds repris également sur le slide pour 2 milliards d'euros pour les augmentations avec maintien du droit préférentiel, 550 millions lorsqu'il y a suppression et 6 milliards d'euros pour les titres de créance susceptibles d'être émis. Nous n'avons pas d'observation sur la détermination du prix ou d'avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel à ce stade, mais nous émettrons, comme par le passé, un rapport complémentaire lors de l'utilisation de cette délégation par votre conseil d'administration. La seconde opération est une opération similaire et notre rapport donc porte sur cette émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, mais cette fois-ci réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. Là aussi, vous pouvez trouver à l'écran l'ensemble des modalités pratiques avec un plafond maximum commun de 135 millions d'euros en nominal et une période de délégation de 18 mois. Là aussi, pas d'observation sur le prix ou l'avis de suppression du droit préférentiel, mais également un rapport à venir en cas d'exécution. La troisième opération concerne l'autorisation à donner au conseil d'administration d'attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre. Au bénéfice tout d'abord des salariés, mais également des mandataires sociaux et même salariés et mandataires sociaux dans le cadre des plans de retraite. Là aussi, l'ensemble des modalités sont reprises à l'écran. Je ne les commente pas outre mesure. Nous n'avons pas sur cette opération particulière d'observation à formuler. S'agissant maintenant de la dernière opération qui porte sur la réduction du capital par annulation d'actions ordinaires achetées, là aussi vous pouvez trouver sur l'écran la délégation de pouvoir donnée au Conseil pour une période de 18 mois et qui est limitée à 10% du capital par période de 24 mois. Là aussi nous n'avons pas dans notre rapport d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction de capital envisagée. Je vous remercie pour votre attention.
Je remercie messieurs les commissaires aux comptes et en particulier Xavier Crépon dont c'est la dernière mission pour, avec cette assemblée pour la présentation de leur rapport.